VOA Afrique, les infos à Washington.
Jean-Roger Billon, bonjour à tous. La Chine a déploré ce mardi l'ingérence flagrante du président américain Donald Trump au lendemain de ses propos sur les manifestations à Hong Kong. Pékin exhorte les États-Unis à parler et à agir avec prudence et à cesser d'intervenir dans les affaires intérieures de Hong Kong, a déclaré devant la presse un porte-parole de la diplomatie chinoise. Le secrétaire général de l'ONU se dit préoccupé du dépassement par l'Iran de la limite imposée à ses réserves d'uranium enrichi. Antonio Guterres estime que cette action n'aidera pas à préserver l'accord nucléaire de 2015. Le point avec Abdourahmane Dia.
Le porte-parole d'Antonio Guterres encourage l'Iran à continuer à appliquer tous ses engagements nucléaires prévus par l'accord, alors que ses participants continuent de chercher des moyens pour répondre aux défis considérables auxquels fait face le pays. Pour Stéphane Dujarric, il est essentiel que cette question du stock d'uranium enrichi, comme les autres liées à l'application de l'accord nucléaire, soit gérée par le mécanisme déjà établi. L'Iran avait annoncé le dépassement de la limite des 300 kg d'uranium faiblement enrichi auquel a droit ce pays. L'Agence internationale de l'énergie atomique a confirmé hier le dépassement de la limite imposée par le pacte. De son côté, le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé les pays européens à sanctionner l'Iran. « Vous vous êtes engagé à agir dès que l'Iran violerait l'accord nucléaire », a rappelé M. Netanyahu dans un communiqué. Les États-Unis, qui sont sortis de l'accord, ont récemment renforcé leurs sanctions contre Téhéran.
Les autorités turques ont arrêté 41 personnes aujourd'hui et en recherchaient 81 autres à travers le pays dans le cadre d'enquêtes visant les partisans au sein de l'armée du mouvement güleniste accusé d'avoir fomenté le putsch manqué de juillet 2016. La justice turque a émis des mandats d'arrêt à l'encontre respectivement de 42 et 40 membres des forces armées, a rapporté l'agence étatique Anadolu. Les autorités syriennes ont accusé aujourd'hui Israël de terrorisme d'État après des frappes en Syrie imputées à l'État hébreu qui ont fait 15 morts. Dimanche, l'agence officielle syrienne de presse, Sana, a affirmé que 4 civils avaient été tués dans un bombardement israélien en Syrie, pays en guerre et voisin d'Israël. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, OSDH, Israël a lancé des frappes près de Damas et dans la province de Homs, dans le centre du pays, faisant 15 morts, dont 15 civils.
Nos infos sur voaafrique.com.
Le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, s'est rendu hier à la rencontre des déplacés de l'Ituri au deuxième jour de sa visite dans cette province du nord-est traumatisée par des massacres de civils début juin. Le chef de l'État congolais s'est rendu notamment dans le territoire de Djougou où des criminels, des meurtriers et des assassins, selon les Nations Unies, ont tué des femmes et des enfants, entraînant la fuite de milliers de personnes. Les autorités congolaises pointent du doigt la responsabilité d'une milice dénommée Ngudjolo. Une opération militaire de grande envergure, selon les mots du chef d'État congolais, a été lancée contre ce groupe armé. En République centrafricaine, première rencontre lundi entre le chef du gouvernement et la plateforme de l'opposition dénommée Ezingo Biani, après plusieurs semaines de tensions. Malgré la main tendue de l'exécutif, les leaders de ce mouvement maintiennent leurs revendications, dont l'arrestation de certains chefs de groupes armés. À Bangui, retrouvons les explications de Freeman Sipila.
C'est la première fois que les deux protagonistes se réunissent autour d'une même table pour discuter de leurs différends. Le chef du gouvernement, jouant à l'apaisement, a expliqué au leader du mouvement Front Uni pour la défense de la patrie, Ezingo Biani, les raisons de l'interdiction de leur meeting dans les 8e et 6e arrondissements de Bangui, Firmin Ngribada.
Je tiens à vous affirmer que le gouvernement comprend vos réactions résultant des désagréments causés par ces interdictions, lesquelles étaient justifiées par le souci de préserver l'ordre public.
Après presque une heure d'échange, les lignes n'ont pas bougé. L'opposition maintient ses revendications, parmi lesquelles l'arrestation de certains chefs des groupes armés. Gervais Lakosso, coordonnateur général du mouvement Front Uni pour la défense de la nation, Ezingo Biani.
Quand nous demandons qu'on débarque du gouvernement, les mercenaires mercenaires, les chefs de guerre qu'on a nommés pour faire la paix mais qui ne font pas la paix, ce n'est pas négociable, ce n'est pas impossible. Et quand on demande qu'on arrête ceux qui ont tué le peuple centrafricain après l'accord de Khartoum, ça non plus, c'est quelque chose de difficile à obtenir de la part du Premier ministre et du Président de la République.
La rencontre s'est terminée sans compromis formel, mais le Premier ministre a promis revenir vers Ezing Obiani après avoir rendu compte de ses préoccupations au chef de l'État. Freeman Sipila Bongui pour VOA Afrique.
Un Rwandais lié au génocide de 1994 a été condamné hier par un juge fédéral de Boston, ici aux États-Unis, à plus de 8 ans de prison pour fraude à l'immigration et parjure. Jean-Léonard Teganya, âgé de 47 ans, a été reconnu coupable en avril pour 2 chefs d'accusation de fraude à l'immigration et 3 chefs d'accusation de parjure selon un communiqué du département de la justice. Il a menti sur son statut de criminel de guerre pour obtenir l'asile aux États-Unis, a dit le procureur Andrew Lelling. Le candidat du pouvoir en Mauritanie, Mohamed Cheikh El Ghazouani, a été proclamé lundi élu au premier tour par le Conseil constitutionnel après le rejet pour insuffisance de preuves des recours de l'opposition qui a exhorté les autorités au dialogue pour sortir de cette crise. Il va succéder le 2 août à Mohamed Ould Abdelaziz pour la première transition entre 2 présidents élus en Mauritanie. Avec 52% des suffrages exprimés, M. Ghazouani a recueilli la majorité absolue au premier tour le 22 juin. Les chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO réunis samedi à Abuja ont adopté formellement le nom d'ECO donc pour le projet de monnaie unique en Afrique de l'Ouest et sa création est prévue dès 2020. L'ECO devra remplacer le CFA et sera aussi utilisé par le Nigeria, le Ghana et la Guinée ayant actuellement leur monnaie nationale. Est-ce possible de créer l'ECO dès 2020 pour analyse? Eric Manirakiza, adjoint à Dakar, l'économiste et analyste politique, Gilles Olakoule Yabi.
Il faut voir d'abord dans la création d'une monnaie unique dans l'espace ouest-africain une volonté d'uniformisation, ou en tout cas d'harmonisation des politiques économiques et notamment de la politique monétaire. Mais je crois que c'est un acte politique effectivement avant d'être un acte économique. Est-ce qu'il est suicidaire pour les économies? Je ne le pense pas. Je pense qu'il y a bien sûr des problèmes de convergence économique et qu'il y a beaucoup de problèmes à régler. Je ne pense pas que l'échéance de 2020 soit raisonnable. Mais par contre, je pense que politiquement, c'est important de signifier une volonté d'aller vers cette intégration monétaire qui doit être dépendant d'une intégration économique et d'une intégration politique forte.
Une monnaie, c'est un outil politique. On a vu le retrait de la Guinée du franc CFA, les conséquences sur l'économie de la Guinée. Est-ce qu'ils auront la capacité politique pour gérer cette nouvelle monnaie?
On le verra à l'œuvre et il est certain que ce n'est pas gagné et que ce n'est pas évident de gérer une monnaie commune dans un espace aussi diversifié en termes de solidité et de spécialisation des économies nationales et également avec beaucoup de déséquilibres dans un pays comme le Nigeria qui représente plus de la moitié du PIB de la région. Donc c'est sûr qu'il y a des défis importants. La vraie question, c'est bien sûr toujours la question des ressources humaines, de la capacité au niveau des économistes de mettre en place tous les outils qu'il faut pour gérer une monnaie commune et en même temps au niveau politique d'avoir la structuration qui permet de garantir la solidarité entre les pays de la région et qui permet d'avoir un mécanisme de décision politique qui soit également tenable.
Vous pensez que la population de la zone CEDEAO est prête pour entrer dans cette nouvelle phase?
Je crois que ce qui est important, c'est de faire en sorte que justement les populations se sentent concernées par cet agenda. Il faut assumer le fait que l'agenda d'une monnaie commune est fait partie de l'agenda d'une intégration politique, économique et d'une CEDEAO des peuples, puisque c'est aussi cela l'agenda. Et donc je crois qu'il faut lier absolument l'élément monétaire à l'élément de progrès économique et social et montrer en quoi une monnaie unique peut faciliter les échanges au sein de la région et en quoi est-ce qu'une augmentation des échanges commerciaux peut stimuler la production, stimuler l'emploi et finalement stimuler l'amélioration du bien-être collectif. Je crois que c'est ça qui est l'enjeu, mais pas simplement un enjeu à nouveau de monnaie unique pour affirmer une souveraineté.
Le principal mouvement de la contestation au Soudan a appelé lundi à la désobéissance civile et ce sera le 14 juillet dans tout le pays au lendemain de manifestations de masse pour faire pression sur les généraux au pouvoir. Et le lundi 14 juillet, désobéissance civile donc et grève politique totale dans tous les secteurs professionnels, dans la capitale et dans toutes les provinces, a annoncé dans un communiqué l'Alliance pour la liberté et le changement, ALC, fer de lance de la contestation au Soudan. Jean-Roger Billon à ce micro. Prochaines infos dans 50 minutes. Vous retrouverez Henri Francis.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.